Et nous avons voulu l'intituler ainsi pour pouvoir nous rappeler que l'Église est le fruit de la mission de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous avons voulu honorer celles et ceux qui répondent à l'appel de Dieu à engager leur vie de diverses manières pour la mission de Dieu. Nous voulons encore prier pour que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont intervenues ici devant. Mais toutes ces personnes ne résument pas la mission. Et sur chaque chaise où chacun est assis, il y a une mission. Dieu est le premier missionnaire. Et ce matin, j'aimerais en 20 minutes vous dire comment Dieu a œuvré, comment Dieu s'est élargi pour que nous soyons là. Et vous dire aussi, de manière renouvelée, que ce Dieu qui s'est élargi, qui a ouvert son cœur, nous appelle à notre tour à nous élargir. Alors pour cela, nous allons lire Ésaïe chapitre 54, les versets 1 à 10. Jérusalem, toi stérile qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets. Car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes descendants prendront possession des territoires voisins et tes villes désertées seront repeuplées. Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu as pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu Saint d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin, mais ton Dieu déclare, comment peut-on rejeter la femme que l'on a choisie quand on était jeune? Pendant un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir. Mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis. Moi qui te garde par ma tendresse. Prions encore un instant. Ô Seigneur, merci de nous faire part de ta tendresse ce matin. Merci de nous faire part de ton cœur vibrant pour ton peuple. Merci de nous faire part de ton cœur vibrant pour ton dessein éternel. Seigneur, aide-nous à saisir ici et maintenant un appel dynamisant pour notre vie, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les amis, cet extrait de texte se situe dans la seconde grande partie du livre du prophète Ésaïe, qui couvre les chapitres 40 à 55 ou jusqu'à 66, suivant les commentateurs. Dans cette deuxième grande partie, le prophète Ésaïe annonce, au-delà de la durée de l'exil babylonien d'Israël, c'est-à-dire il voit presque 150 ans avant l'événement qui allait se produire, ce qui a fait dire aux critiques libéraux que ce n'était pas possible et que ça a été écrit après. C'est mal connaître le Seigneur. Il annonce que le peuple connaîtra un exil douloureux qui s'est produit de 587 à 538. Mais au-delà de cette épreuve, il voit la libération et la restauration de Jérusalem. Et cette libération interviendra de façon déroutante. Pourquoi déroutante? Parce que l'instrument que le Seigneur va susciter, c'est un païen qui s'appelle Cyrus, souverain de Perse. Et c'est par lui que le Seigneur va renverser l'empire de Babylone. Le texte d'Ésaïe l'appelle le Messie du Seigneur, loin du Seigneur. Mais nous savons que Cyrus n'était qu'une préfiguration du véritable loin du Seigneur au sens total du terme. Cette libération, nous dit Ésaïe dans ce passage, fera passer le peuple d'Israël de l'humiliation babylonienne à l'exultation. Et c'est ce message de salut et d'espérance que le prophète veut nous faire passer au-delà de ce peuple pour la vision des nations selon le cœur de Dieu. D'abord, il nous dit 5 choses que je ne vais pas développer parce que le temps nous manquerait. Premièrement, il nous dit, Israël est comparé ici dans sa condition à une femme stérile et délaissée. Il dit, elle enfantera une descendance innombrable. C'est les versets 1 à 3. Ensuite, au verset 4 à 6, il nous dit que la veuve humiliée, elle aura à nouveau pour époux le Seigneur de l'univers. C'est toujours du même peuple dont il s'agit. Au verset 7 à 10, il dit que ce peuple qui semble être abandonné dans ce contexte de l'exil babylonien sera racheté par le Seigneur qui demeure fidèle à son alliance de paix. C'est les versets 7 à 10. Et puis pour tout à fait terminer le chapitre, nous ne l'avons pas lu dans sa totalité, mais vous commencez à me connaître, j'aime bien respecter les contextes des textes. Quatrième partie, démantelée, elle sera reconstruite avec gloire. Ce sont les versets 11 à 12. Et cinquième affirmation, ce peuple opprimé, spolié, sera mis en sécurité et vivra en paix avec sa postérité à l'écoute du Seigneur. Ce sont les versets 13 à 17. C'est donc dans ce chapitre-là que se situe le thème de cette prédication, agrandis l'espace de ta tente. Agrandis l'espace de ta tente. Alors, ça nous parle les tentes. Et j'ai demandé à mon frère Vincent ce matin de nous montrer comment il peut agrandir. Non, viens, ne fais pas tout. Parce qu'il faut quand même qu'on voit comment tu agrandis l'espace de ta tente. Waouh! Ah! Allez! Incroyable, hein? Alors, avant de parler d'agrandissement, je vais revenir sur cette notion de tente. Puisqu'il est question d'agrandir l'espace de sa tente, je voulais prendre quelques minutes pour parler quand même de la tente. Elles sont de plus en plus légères, les tentes, moins complexes à installer. Hein, j'en ai connu des drôlement difficiles. Et comme je suis d'une famille nombreuse, on avait une tente avec 3 chambres, je ne vous dis pas le nombre de temps que ça prend à monter. La tente, pour moi, évoque le voyage, évoque le dynamisme, l'aventure. La tente, pour moi, évoque aussi, d'une certaine façon, l'inconfort. Alors, il est vrai que le randonneur prend sa tente, il prend son sac de couchage, il prend un petit matelas. Aujourd'hui, on fait même quand même des matelas un peu plus confortables. Mais en général, on rencontre très peu de personnes qui s'imaginent que toute leur vie durant, ils vont la passer sous une tente. Et puis, la tente, dans la perspective biblique, vous le savez, est un symbolisme assez fort de la présence de Dieu. Vous allez remarquer que les Israélites à qui s'adresse cette parole ont eu l'expérience de c'est quoi vivre sous des tentes qui n'étaient pas comme ça. La fête de Soukhot, qui est encore une fête célébrée aujourd'hui, rappelle ce moment et cette expérience douloureuse où pendant ces pérégrinations dans le désert, le peuple hébreu a dormi pendant 40 années dans le désert sous des tentes, et des tentes qui n'avaient même pas de toit pour à la belle étoile, soumis au froid, aux aléas de la nature. Mais ils ont fait une expérience prodigieuse. C'est que Dieu lui-même est un campeur. Oui, Dieu lui-même est venu camper au milieu de son peuple. Le fait que Dieu choisisse de venir camper, de nous rejoindre dans ce symbole de la tente, pour nous dire que ce n'est pas un Dieu qui veut être enfermé, ce n'est pas un Dieu qui veut être fixé, ce n'est pas un Dieu qui veut être domestiqué, c'est un Dieu qui veut faire route avec nous, il veut marcher avec nous. Si bien que vers la fin du livre de l'Exode, les chapitres 25 à 30, puis les chapitres 35 à 40, on a une longue description sur la réalisation du tabernacle qui est lui-même couvert par la tente qu'on appelle la tente de la rencontre ou la tente du rendez-vous. La tente devient donc non pas seulement le lieu où je dors et de ma précarité, mais il devient une figure de la tente de la rencontre, le lieu où Dieu manifeste qu'il est pleinement présent au cœur de son peuple dans un moment douloureux qui était l'exode dans le désert d'Égypte. Ils sortaient de l'Égypte et tout de suite ils ne sont pas rentrés dans quelque chose de confortable. Il a fallu qu'ils traversent encore ce désert et Dieu est venu en mission. Dieu est venu en mission les libérer de l'autorité du Pharaon, mais Dieu est resté en mission avec eux, en cheminant avec eux dans le désert et en campant avec eux. Tant et si bien que l'évangile de Jean reprendra d'ailleurs l'image de la tente pour parler de Jésus-Christ qui est venu dans Jean 1 tabernaclé au milieu de nous. En Jésus-Christ, là je viens de faire un bond incroyable, Dieu est venu tabernaclé au milieu de nous. Nous sommes donc en présence d'un Dieu qui nous dit qu'il est venu. Il s'est élargi pour nous rejoindre. Et lorsque nous considérons l'œuvre que Dieu est venu faire, l'œuvre missionnaire de Dieu, c'est une œuvre spectaculaire. Parce que Dieu considère la situation de son peuple et il invite son peuple à regarder au-delà de ce qu'il traverse. Premier élargissement. Élargis ta tente. Pour nous aujourd'hui, c'est être appelé d'une certaine façon à voir plus loin que l'immédiat, à élargir notre regard, notre pensée. Lorsque le peuple connaîtra l'exil, les exilés seront là à Babylone. Le psaume 137 nous en fait un écho. Ils seront perçus comme des gens qui ont échoué. Ils seront regardés comme des gens vaincus. Ils seront regardés et moqués. Et leurs bourreaux, leurs adversaires leur diront, chantez-nous des cantiques. Dites-nous alors où est votre Dieu. Proclamez comme vous venez de proclamer ce matin votre Dieu. Et ils diront au psaume 137, nous étions là au bord du fleuve de Babylone et on nous demandait des chants et nous pleurions. Nous pleurions et nous pensions à Sion, à Jérusalem. Hein? Que ma droite m'abandonne, que ma langue se colle à mon palais si je t'oublie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu va arriver, il dit, ta situation est comme la situation, une situation sans vie. Une situation stérile. Mais cette épreuve ne sera pas stérile. Tu es comme la femme stérile. Tu te sens abandonnée. Tu te sens même comme une femme veuve parce que tu ne vois pas l'Éternel à tes côtés. Mais moi, je te dis, par la bouche du prophète Ésaïe, je suis là et commence à agrandir d'abord ton regard pour me voir dans ce moment difficile. Je suis là, je vais agrandir ta tente. Pourquoi il va faire ça? Agrandis ta tente. Mais quand on regarde le texte de près, pourquoi il va faire ça? Il va faire ça parce que cette épreuve sera féconde. De cette épreuve douloureuse sortira quelque chose d'encore plus glorieux qu'au temps de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Dieu promet qu'une descendance nombreuse s'associera à la femme délaissée. Alors, chez certains commentateurs, j'ai vu une drôle d'interprétation. On dit la femme délaissée, c'est l'Église, les païens. Non, regardons bien le texte. La femme délaissée, Jérusalem qui est la femme délaissée. La femme abandonnée, c'est encore elle. La femme veuve, c'est toujours elle. Mais seulement, Dieu va l'élargir. Parce qu'il est le Dieu de l'univers. Parce qu'il est le Dieu de toutes les nations. Parce qu'il aime toutes les nations. Et il dit, tu auras une descendance nombreuse, comme je l'ai promis à Abraham, au-delà de la tribu ethnique, au-delà du biologique, au-delà de la filiation biologique. Je vais t'associer un peuple nombreux. Et c'est pour ça que je te dis, entre dans cette vision-là et élargis-toi, élargis ton cœur pour accueillir les autres nations. Tu es la fille, en quelque sorte, ou la première-née, mais je vais t'associer d'autres descendants. La femme stérile enfantera. Ne prenons surtout pas ça au pied de la lettre, décontextualisé, en prophétisant pour des personnes qui ont la souffrance parce qu'ils sont dans un parcours de procréation assez douloureux. On pourrait sortir ce texte dans ce contexte et faire une promesse à une personne qui souffre déjà d'un parcours de fécondité douloureux. Attention à ne pas décontextualiser ce texte-là, s'il vous plaît, parce que c'est déjà douloureux pour ne pas ensuite se risquer à faire un certain nombre de promesses qui ne sont pas en réalité destinées à cette situation-là. On peut recevoir du Seigneur qu'il agira à sa manière, mais ce verset-là n'est pas en train de dire ça. C'est important vraiment qu'on lise la Bible en contextualisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre d'élargissement de Dieu va se produire à partir d'un serviteur, le serviteur du Seigneur, dont il est fait mention au chapitre 52 et 53 d'Ésaïe. Quand on lit Ésaïe, on se rend compte qu'il annonce cette œuvre d'élargissement et de restauration à travers ce que le serviteur souffrant va faire. Et ce serviteur du Seigneur, la tradition chrétienne, à juste titre, y a vu le Christ et l'annonce de sa passion. On va commémorer ce moment bientôt avec l'histoire de Pâques. Mais il est celui dont parle Ésaïe au chapitre 52. Il est cet homme de souffrance. Il est cet homme habitué à la douleur. Il est celui qui s'est chargé de nos péchés. Le peuple, à cause de son péché, ce peuple a été emmené en exil. Et nous aussi, d'une certaine façon, humanité, à cause du péché, nous nous sommes exilés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Mais Dieu est sorti dans son amour pour faire la paix avec chacun d'entre nous. Et en Jésus-Christ, Dieu a envoyé le Fils bien-aimé pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Le Christ est ce serviteur souffrant d'Ésaïe chapitre 53, qui a porté toutes nos souffrances, qui s'est chargé de toutes nos fautes. C'est celui dont Ésaïe dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et là aussi, j'en profite pour dire une chose que Christophe nous a rappelé la semaine dernière. Regardez que ce passage nous parle d'abord de l'œuvre objective du Christ. C'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés de la tyrannie du péché. Et sa mort vient guérir cette maladie du péché d'abord dans nos cœurs. Bien sûr, le Christ a guéri beaucoup d'autres personnes physiquement, mais ces personnes sont mortes et remortes. Regardez par exemple Lazare. D'accord ? Là aussi, j'entends souvent un certain nombre de commentaires qui disent « parce que ce passage d'Ésaïe 53 est là, alors le résultat est toujours le même. Et si vous n'obtenez pas le résultat, alors probablement il faut chercher le problème, soit dans votre foi, soit dans la foi du pasteur, soit dans la foi de l'Église, soit dans la foi je ne sais pas de qui. » Là aussi, s'il nous plaît, lisons le texte en recontextualisant constamment. Jésus est le serviteur souffrant et c'est lui qui est venu. Et c'est lui qui a donné sa vie. Et sa vie va être, et sa mort à la croix, la mort du juste à la croix. Celui qui a été fait péché meurt. Et par sa mort, Dieu dit qu'il va attirer une multitude de nations à lui. Alors ce qui fait que Dieu lui-même, comment Dieu veut élargir notre tente, la tente de nos vies, eh bien voilà, en nous disant, regardez, le Christ l'a fait objectivement. Et c'est pourquoi j'ai commencé ma prédication en nous rappelant que nous tous qui sommes ici, autant que nous sommes le fruit de l'élargissement du cœur de Dieu. Dieu a élargi son cœur à Israël. Dieu dit, regardez, quand vous étiez en Égypte, vous n'étiez pas plus que les autres. Je vous ai aimé par grâce. Et ensuite, il a appelé Israël à élargir son cœur pour accueillir les nations. Et nous sommes dans ce temps où si vous êtes là, c'est parce que Dieu en Jésus-Christ a élargi la maison Israël pour que nous puissions entrer par la foi. Il n'y a pas deux maisons, il n'y a pas deux peuples, il n'y a pas deux arbres. Il y a un seul peuple de Dieu qui est réuni en Jésus-Christ, juif et non-juif. Moi, je suis Camerounais, mais je ne suis pas plus illégitime que celui qui est issu d'Abraham directement. C'est la bonne nouvelle de l'élargissement dont nous parle la Bible. Alors, j'aimerais terminer en tirant pour nous, trois applications pratiques. Premièrement, élargir notre tente est un appel à élargir notre regard aussi aujourd'hui sur l'Église. Est-ce que nous sommes appelés aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas appelés plutôt aujourd'hui à nous élargir, nous aussi? Nous ne pouvons pas vivre en Église et nous satisfaire d'avoir des places qui sont remplies et de ne vivre l'Église que pour ceux qui sont déjà présents. Nous ne pouvons pas penser à l'organisation de l'Église uniquement que par le prisme de ceux qui sont déjà présents. Nous nous préoccupons davantage de qu'est-ce que ceux qui sont déjà présents penseront, diront, feront, comment ils réagissent, est-ce qu'on n'aura pas de scission, si on prend telle orientation ou telle orientation. Mais enfin, mes amis, la mission du Christ nous montre qu'il a prié pour l'Église, non pas comme une fin en soi. Mais il a prié pour l'Église pour qu'elle soit à son tour mission au sein du monde. Israël devait être mission parmi les nations. L'Église est appelée aussi à être mission parmi les nations. D'accord ? Donc nous devons aussi apprendre à regarder notre Église en nous posant la question de savoir pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi d'autres ne viennent pas? Est-ce que nous faisons de la place? Est-ce que nous nous laissons reprendre, remettre en question dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de communiquer, dans notre manière de faire église? Qu'est-ce que nous devons changer pour que l'espace de notre tente soit élargi? Ce n'est pas facile. Ça a provoqué un débat dans la première église. Lorsque les païens sont arrivés, il fallait les élargir. Donc notre changement doit être de dire, Seigneur, nous prions comme toi dans Jean 17, pour ceux qui croiraient par le témoignage de ceux qui sont déjà là. Nous cherchons, Seigneur, à vivre une église pour ceux qui sont là, mais nous voulons aussi penser, réfléchir une église pour ceux qui ne sont pas encore là. Une église pour ceux qui n'ont pas encore d'église. Qu'ils viennent et qu'ils comprennent ce que nous vivons. Qu'ils viennent, qu'ils comprennent ce que nous prions. Qu'ils viennent, qu'ils comprennent ce que tu nous mets sur le cœur. C'est élargir à notre tour notre tente, parce que Dieu a encore beaucoup d'enfants qu'il veut donner à notre communauté. Mais comment on va les accueillir? Comment on va faire place? Comment on va cheminer ensemble? Deuxième conséquence que j'aimerais tirer, élargir l'espace de notre tente en rayonnant toujours plus sur notre ville. Et je remercie tous les intervenants parce qu'ils nous ont montré que la mission de Dieu, le champ de Dieu, c'est le monde entier. Mais on peut être dans le monde entier à travers les uns et les autres, mais nous sommes appelés à être un phare dans la ville de Nîmes. Quelqu'un m'a raconté l'histoire de ce lieu et beaucoup ne le savent peut-être pas. Quelqu'un m'a raconté qu'en venant ici, il n'y avait même pas le CHU. Et on voulait être sur cette colline pour être comme un phare sur la ville de Nîmes. Et voilà ce qui doit nourrir, animer notre prière. Comment continuer à être ce phare, non pas pour éblouir, non pas pour impressionner, mais simplement pour bénir, pour participer à cette œuvre de salut, pour rayonner des rayons du Christ duquel découle la guérison des nations. Élargir notre tente, c'est rejoindre les quartiers autour de nous peut-être, c'est rejoindre comme nous le faisons nos étudiants à Séguier, mais aller peut-être au-delà, c'est rejoindre peut-être tel ou tel ministère dans cette église ou en partenariat avec les autres églises. En tout cas, c'est être motivé d'un désir qui dépasse ce pourquoi nous venons ici. En répondant à l'appel que vous m'avez adressé comme votre pasteur, je ne me suis pas dit, waouh, c'est super, tout est construit, je viens me reposer. J'ai beaucoup plus de travail parmi vous que je ne l'avais il y a encore quelques mois en arrière dans une église moins importante et beaucoup plus de charges. Mais le salaire n'est pas proportionnellement. Et ce n'est pas une plainte, parce que c'est comme ça, on ne fait pas ça pour l'argent. Ce n'est pas parce que vous passez d'une église de 100 à 300 que votre salaire fait x 3. Non, ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. J'ai le même salaire que tous mes collègues de la Fédération Baptiste. C'est les mêmes conditions. Nous sommes à la CAVIMAC. Pas de chômage, pas de retraite importante et tout. Mais un cœur pour servir notre Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et j'espère que cet après-midi ou pendant le repas, on va continuer de parler et de dire ce qu'on a sur nos cœurs. De dire ce qu'on a sur nos cœurs ici. Moi, quand je suis ici et je suis seul dans ce bâtiment, je sens une grande tristesse. Je me dis, tout cet espace, tout ce lieu, tout cet outil, pourquoi je suis là seul? Ce lieu doit être un lieu de vie, un centre de vie, un centre d'équipement, un centre de ressourcement. Voilà ce que peut-être le Seigneur voudrait que nous commencions à nous dire. Ce lieu, il est fait pour d'autres encore, plus que nous. Il peut accueillir plus que ça encore. Il peut bénir plus que ça. Et je voudrais nous engager vraiment à prier dans ce sens. Seigneur, montre-nous de quelle manière nous voulons étendre la tente et les cordages. Et je termine par une dernière application. Une minute pour conclure. Une tente, si elle n'est pas implantée avec des bonnes sardines, d'ailleurs, ils ne connaissaient pas les sardines, ils y allaient avec des pieux. Eh bien, non seulement vous risquez de ne pas la retrouver où vous l'avez déposée, mais elle peut être même dangereuse. Alors, oui, nous voulons que le Seigneur élargisse la tente de nos cœurs. Oui, nous voulons que le Seigneur élargisse la tente de nos vies. Oui, nous voulons que le Seigneur bénisse la ville. Mais nous devons prendre garde à nos pieux. Nous devons refaire ensemble l'inventaire, le travail, la réflexion de nos pieux. Nos pieux, c'est nos racines d'une certaine façon. C'est nos piliers. L'Église n'est pas née avec le pasteur Polyphonas. L'Église n'est pas née il y a 10 ans. Nous avons un enracinement des années 80. Nous avons un enracinement qui date de plus que ça. On peut remonter à Jésus-Christ, aux apôtres. Et qu'est-ce qui fonde nos églises? Qu'est-ce qui fonde notre foi? Eh bien, je ne vais pas être original. Je termine par trois choses qui sont certaines. Je vais dire comme William, pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que la Bible le dit. Trois pieux pour un trépied inébranlable. La foi, l'espérance et l'amour. Nous devons constamment vérifier. Est-ce que nous sommes une église qui participe, encourage, forme, aide chacun à être enraciné toujours plus dans la foi? La foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. C'est l'état de notre cœur enraciné, centré sur le Christ. Une église résolument centrée sur le Christ, résolument ancrée sur le Christ. Et donc quand chacun d'entre nous, nous venons à l'église, notre désir, ce n'est d'abord pas de savoir la qualité de la louange. Notre désir doit commencer par dire, à être exigeant sur l'enseignement qu'on nous apporte. À être exigeant sur la façon dont nous lisons la Bible. Parce que c'est elle qui nourrit notre foi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, nous ne pouvons pas être légers avec. Nos jeunes, comment on va les rejoindre? Comment on va les aider, nos aînés, à continuer de s'enraciner, de vérifier que ce pieux tient bien? Deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance, c'est la foi qui assume le temps. C'est la foi qui n'a pas peur du temps long. C'est la foi qui anticipe les saisons de la vie. C'est la foi agissante et résolument tournée vers l'avenir. Et dans les mois qui viennent, on veut chercher l'avenir en tant que conseil de direction, en tant que conseil de service, mais en tant que l'Église, on veut regarder au-delà de l'héritage qui nous a été légué pour, à notre tour, aller plus loin et transmettre un héritage vivant. Et c'est ça l'espérance, la ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne possède pas encore. Mais seule la foi saisit ces choses. C'est ce que nous dit, ou c'est ce que je crois lire dans Hébreux chapitre 11. Alors, le pieux de l'espérance. Et les exilés à Babylone, ils n'avaient pas perdu toute espérance. Quand on lit le psaume 137, on voit qu'ils pensent, ils attendent un jour, le Dieu de l'Alliance est fidèle. Et un jour, il nous délivrera. Et le dernier pieux, l'amour. Si je parle les langues des anges, si je suis prêt même à donner mon corps aux martyrs, si même je déplace les montagnes, j'ai une foi jusqu'à déplacer les montagnes, ce n'est pas moi qui dis, je paraphrase l'apôtre Paul. Sans l'amour, c'est dur à dire ça. Sans l'amour, je ne suis rien. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est le troisième pieux. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est la voie par excellence. Nous pourrons être l'église du Noël du cœur. Nous pourrons être l'église des meilleurs locaux, du meilleur site. Nous pourrons être l'église que les autres rêvent ou les autres pasteurs rêvent d'y être parce que c'est grand, parce que c'est ceci. Nous pourrons parler en langue. Nous pourrons ressusciter des morts. Nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Mais si nous n'avons pas l'amour, l'agapé du Christ, il est en train de nous dire que nous sommes des tonneaux qui font beaucoup de bruit. Et moi, je crois que nous sommes une église du cœur. Je crois que nous sommes une église où, dans le caractère, ce qui m'a été transmis, y compris par mon frère aîné Norbert, c'est une église du cœur. Tout ce qui a été fait, a voulu être fait, est parti d'un élan du cœur. Et si nous perdons cette importance de l'amour, l'amour en vérité, l'amour qui ose aussi parfois dire des choses qui ne vont pas bien, mais la vérité et l'amour ne s'opposent pas. Ils se nourrissent et ils nous grandissent. Voilà les trois pieux que je nous propose. Au moment où nous allons penser, prier, réfléchir pour élargir l'attente de nos vies, qu'en même temps, chaque fois qu'on grandit, on consolide nos pieux. La foi doit être consolidée, l'espérance doit être consolidée, l'amour doit être consolidé. Eh bien, c'est comme quand vous avez des enfants, ils grandissent, mais vous ne laissez pas en pointure 24. Eh bien voilà, vous vous adaptez, vous adaptez, vous adaptez, vous adaptez. Que le Seigneur nous aide à y arriver parce que je viens de dépasser de 5 minutes.
Merci. Oui, merci beaucoup Paul. Je vais juste inviter la louange à venir. Vous donner quelques informations importantes. Après ce temps de culte, nous allons partager un bon repas, parce qu'il est bon, parce que c'est vous qui l'avez préparé, parce que vous avez amené de bonnes choses que nous allons pouvoir partager les uns les autres. Donc n'hésitez pas à rester. Et puis alors après, vous aurez le complément d'enquête de Daniel, dans le témoignage de Daniel dans le complet, je vais le dire, voilà, de son voyage, de tout ce que ça a pu lui apporter aussi. Donc c'est vraiment super de pouvoir retrouver ça. Vous avez le droit d'enlever les chaises et de les plier pour pouvoir aider à mettre les tables aussi, pour pouvoir préparer ce repas partagé. Je n'ai pas donné toutes les annonces de la semaine habituelle. Par contre, une annonce très importante. Vous connaissez, je suis très mauvais en anglais, moi, par contre, il faudrait vraiment que j'apprenne l'anglais si je dois partir en mission. Hein. The Chosen, c'est samedi prochain. Par contre, il y a un super film qui est là, mais il faudrait préparer un bon repas pour une quinzaine de personnes. Alors, nous avons besoin de volontaires. Alors, il faut faire les achats, mais ils sont remboursés. Mais par contre, il faut aimer cuisiner pour 15 personnes. Donc, est-ce que quelqu'un ou deux personnes seraient volontaires pour préparer ? Alors, pas forcément. Eh bien, voilà. Gérard et Corinne sont là. C'est Magali, tu verras avec Gérard ou Béatrice ? Voilà, et Béatrice, voilà, pour mettre tout ça en place. Merci, un grand, grand merci. Le camp Momentum, c'est le dernier jour pour s'inscrire avec une réduction. Et si vous voulez le code, c'est CMLK. Attention. Voilà. Je voudrais dire quand même merci à la technique, à Fanny Lou et à Cédric. C'était pas évident. Ça galère, mais... Voilà. Le week-end prochain, vous ne verrez pas les deux conseils. Conseil de service et de direction se retrouvent pour prier, pour travailler. Et comme a dit Paul, certaines